C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Nous sommes à Agadir au Maroc à l'occasion du deuxième sommet Climate Change qui réunit plus de 5000 personnes venues de 80 pays représentant leur ville, leur entreprise ou leur association. Elles ont échangé pendant 3 jours sur leur stratégie pour lutter contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement. Le lien entre migration et climat a longuement été débattu dans plusieurs conférences car les drames qui ont lieu chaque jour en Méditerranée sont dans la tête de tous ici. Avec nous pour en parler dans ce studio installé face à l'océan Atlantique, 4 invités. Anna Fonseca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de mission pour l'Organisation internationale des migrations ici au Maroc. Mohamed Charef, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Commission régionale des droits de l'homme d'Agadir et expert dans le domaine de la mobilité des populations. Audrey Boussaoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du pôle environnement et agriculture durable au sein de l'association Migration et Développement qui donc agit au plus près sur le terrain. Et Charlotte Bredel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de l'association Climate et vous avez des innovations à destination des migrants. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors Anna Fonseca, comment est-ce qu'on peut expliquer tout d'abord le lien entre migration et climat? Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
Bon non, ce n'est pas évident et une des questions clés qui ont à mettre à la table, c'est le manque de données pour vraiment démontrer cette lien entre changement climatique et la mobilité humaine, les mouvements migratoires. Mais il y a déjà des rapports clairs qui ont été produits par GIEC, par exemple, qui montrent qu'il y a
un lien... Donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat.
Correct. Qui montre qu'il y a un lien clé entre l'environnement et le changement climatique pour la migration, pour le mouvement d'une population. Dans des contextes différents et complexes, dans les contextes de catastrophes naturelles ou dans les contextes de dégradation climatique et environnementale lente.
Comme les sécheresses, par exemple?
Oui, oui. Bien sûr, l'OIM... depuis 10 années, d'une décade, qu'on parle sur la question de migration et changement climatique et environnement. Mais dans les dernières années, et notamment on avoue pendant la COP22, comme le sujet de migration est là déjà, et déjà dans le discours au niveau politique et au niveau d'action. Mais il y a des défis, il y a un manque clair d'action concrète qui peut... d'une façon adressée des questions qui sont liées à des facteurs pour la migration forcée, par exemple, donc avoir des actions concrètes pour prévenir des migrations forcées liées à des changements climatiques, et aussi des actions concrètes pour assister les populations migrantes qui sont dans des contextes de catastrophes naturelles, et aussi des actions pour faciliter parfois ou souvent faciliter la migration comme une stratégie d'adaptation au changement climatique.
Mohamed Charef, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène, notamment sur le continent africain ?
Comme vous l'avez dit très justement au départ, c'est une question qui préoccupe un grand nombre de personnes et ce n'est pas une question récente. Ce qui est récent, c'est l'ampleur. Parce que maintenant, on est dans un monde qui est globalisé, mondialisé, où les fermetures des frontières sont devenues la monnaie courante, hein, donc un peu partout. Donc l'immigration elle-même est devenue un sujet de controverse qui ne laisse personne indifférente. Donc on est pour ou contre, mais souvent on est contre que pour. Et on lui donne des ampleurs énormes. Globalement, on estime 240 à 250 millions de migrants de par le monde. Ce qui est insignifiant. Ça représente pratiquement 3% de la population mondiale. Mais simplement, on en parle tout le temps. Au niveau de l'Afrique, globalement, on estime qu'il y a 32 millions de migrants africains, dont 55% à l'intérieur de l'Afrique. Donc c'est des déplacements interafricains, ce qui est énorme, souvent parce qu'à tort on croit que l'immigration elle est souvent sud-nord. Elle est aussi sud-sud, mais elle est aussi nord-sud de plus en plus. Hein. Vous êtes à Agadir, cette magnifique ville, où il y a énormément, notamment d'Européens qui viennent aux villégiatures et qui s'installent d'une manière plus ou moins longue.
Oui, donc, d'ailleurs, avec la croissance économique de l'Afrique, on peut s'attendre à voir augmenter cette migration-là.
Absolument, absolument. Maintenant, au niveau de le lien migration et changement climatique, c'est une question donc qui a toujours existé, qu'on l'aborde d'une manière les chercheurs depuis tout le temps. Hein, les effets, donc l'homme, par nature, il va chercher là où il pourra vivre mieux. Donc c'est une définition. L'Afrique, surtout l'Afrique du Nord, mais aussi les pays du Sahel, on a un phénomène de sécheresse qui est devenu récurrent ces dernières années. Avant, on avait une sécheresse tous les 10 ans, mais maintenant, on a 2-3. Et ça, c'est insidieux. C'est-à-dire, la sécheresse, ça ne mobilise pas la communauté internationale.
Parce que c'est un processus de dégradation des terres qui est très lent.
Très lent.
Ce qu'on appelle la désertification.
Voilà, donc c'est la désertification. C'est un processus très lent et qui pousse des millions, des milliers de personnes sur les routes. Et ces déplacements souvent à l'intérieur des pays. Donc ce n'est pas une immigration, c'est plus des déplacements, parfois des retours, parfois non. Les estimations au niveau mondial, on estime qu'au niveau de l'Afrique, d'ici 2020, il va y avoir 80 à 100 millions d'Africains qui vont vivre un stress hydrique, ce qui est énorme.
Mais est-ce que ça va forcément engendrer des déplacements ?
Forcément. Oui. Maintenant, on sait que, vous le savez mieux que moi, parce que j'avais écouté une émission notamment sur votre radio, il y a 20 millions environ d'Africains de l'Est qui subissent la sécheresse et qui sont dans presque la famine. Donc là aussi, il y a des... Mais ça ne mobilise pas. Mais maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont sur les routes, qui sont en difficulté. Et ça, donc, est-ce qu'on peut les appeler migrés ? Est-ce qu'on les appelle... Non, normalement non. Souvent, à tort d'ailleurs, on parle des réfugiés climatiques. Donc, mais au fait...
Il y a un statut qui n'existe pas vraiment.
Il y a un statut qui n'existe pas, parce que le mot réfugié, ça a une conséquence juridique. C'est-à-dire qu'ils ont des droits. Par contre, quand on parle d'un réfugié climatique, il n'a aucun droit. C'est fictif. Hein, le mot, pour faciliter d'usage, hein, en plus pour choquer, pour toucher, mais simplement, donc, les déplacés écologiques ou les réfugiés. Moi, je parle beaucoup plus avec l'OM. On parle au niveau de l'OM du Maroc, on parle de la mobilité. Une forme de mobilité liée au changement climatique.
Oui. Et est-ce qu'on en parle de plus en plus parce que les impacts des changements climatiques sont de plus en plus là aussi ?
C'est une évidence. Ça a des conséquences énormes sur la population, sur les gouvernements qui ont d'autres problèmes et qui doivent aussi porter à bras le corps cette question qui maintenant, il commence à y avoir un écho au niveau mondial. Vous avez vu dans ce sommet, d'ailleurs, il y avait 3 grandes séances plénières dont un axe réservé à cette question, c'est dire l'importance que revêt cette question au niveau de l'Afrique. Et donc il y aura d'autres choses qui ont été faites, on pourra aborder tout à l'heure, la mise en place notamment avec l'aide de l'OIM et de CNDH et l'université Bnozor d'Agadir et leur MES, la mise en place d'un réseau africain dont M. Bagouigé qui est ici présent, donc qui est béninois, qui est le secrétaire général et que j'ai le plaisir de diriger, qui est ouvert à l'ensemble des chercheurs parce qu'il faut qu'on connaisse, il y a 2 problématiques, la définition, la connaissance, parce qu'on a la question des résiliences et ainsi de suite, mais il faut connaître un petit peu la réalité.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici. I.
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Agadir au Maroc au 2e sommet Climate Change qui réunit les personnes de la société civile engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Ils sont plus de 5000 venus ici de 80 pays. Audrey Boussaoud, vous avez tranquillement écouté la présentation de nos 2 experts ici, une présentation générale sur le lien entre migration et climat. Vous, au sein de l'association Migration et Développement dans laquelle vous travaillez, est-ce que vous constatez justement le lien entre dégradation des terres, par exemple, et envie de partir ?
Alors, je dirais que c'est une perception qui est difficile à avoir, puisque au niveau des agriculteurs et agricultrices, les changements se font au fur et à mesure et sur plusieurs décennies. Donc, c'est mêlé finalement à un constat général qui est une perte de dynamique au niveau des territoires, qui est liée aussi à l'enclavement. Donc, il y a beaucoup de choses, comme le disaient les 2 intervenants précédents, qui se recoupent, plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Nous, en tant qu'association, on intervient au niveau du développement global territorial, au niveau des communes. On essaye d'intégrer ces questions de changement climatique dans les plans d'action communaux. Donc on essaye d'appuyer les communes à intégrer cette dimension.
Ici dans la région d'Agadir ?
Ici dans la région d'Agadir, qui est la région Souss-Massa, et également dans la région de Rahat Afilalet. On intervient également sur tous les aspects d'économie sociale et solidaire, donc qui est une des solutions pour le développement durable aussi des zones de montagne.
Mais vous travaillez plus particulièrement sur l'agriculture et vous me disiez en préparant cette émission que justement l'idée d'aider les gens à avoir des méthodes agricoles plus adaptées aux sécheresses, c'était un moyen de faire en sorte qu'ils restent sur leurs terres. Donc il y a des solutions, l'agroécologie notamment.
Exactement. C'est vrai que bon, malgré le fait que ces facteurs soient interconnectés, on observe bien et dans les discours des agriculteurs même, des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes, des inondations qui altèrent finalement la qualité de leur production et ils ont de plus en plus de mal à vivre de cette activité agricole qui est l'activité économique principale dans les zones rurales de la région. Et donc on intervient, voilà, comme vous l'avez dit, sur l'agroécologie comme solution à ces changements climatiques, la sécheresse qui est de plus en plus récurrente et les pluies qui sont de plus en plus violentes.
Voilà. Mohamed Charef.
Oui, nous aussi, si je peux ajouter, parce que c'est une association qui est l'une des plus dynamiques, les plus anciennes, et qu'on trouve essentiellement dans le sud du Maroc, mais on trouve des identiques aussi dans la vallée de fleuve Sénégal, notamment dans la région de Kès et ainsi de suite. C'est une association qui date de 86 et qui, l'un des objectifs essentiels, c'est essayer de reprendre... se réconcilier avec son territoire. C'est des territoires qui étaient expulsifs, qui poussaient les gens à partir, qu'ils redeviennent attractifs. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Donc c'est possible.
C'est possible, parce qu'il y a la résilience. On est habitué, le stress est hydrique, on est habitué. C'est une composante dans notre histoire. Mais simplement, on a perdu certaines habitudes. Maintenant, il faut revenir un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des termes. Si vous prenez le mot tuisa, le travail de groupe, ça a toujours existé. On est dans une ville qui s'appelle Agadir. Agadir, c'est l'équivalent d'une banque collective à l'origine, hein, qu'on trouve, les Agadirs, qu'on trouve un peu partout dans le sud du Maroc. Et que les gens mettaient le blé, le miel, l'huile et ainsi de suite, d'une manière... géré d'une manière collective parce qu'on avait besoin de cette solidarité dont parlait Audrey tout à l'heure et pour fonctionner, pour faire face aux aléas climatiques. Mais on a perdu un petit peu ce savoir-faire parce qu'on est rentré dans un autre modèle. Maintenant, il faut revenir un petit peu vers cette culture de nos ancêtres, la mettre en valeur. On trouve partout en Afrique des habitudes comme ça de gérer, de vivre avec la nature.
Et d'ailleurs, on peut aussi faire appel à la diaspora, hein, aux gens qui sont déjà partis et créer des liens pour limiter les migrations avec ceux qui sont restés au pays.
L'association pour laquelle travaille Audrey, elle est née de cette diaspora.
Vous travaillez beaucoup avec la diaspora, Audrey Boussaoui ?
Oui, alors dès l'origine de l'association et de sa création, en fait, elle a été initiée par des migrants marocains qui se sont installés en France et dans d'autres pays à l'étranger. Et ils ont voulu rester dynamiques et impulser un développement dans leur village d'origine, à travers notamment la mise en place d'infrastructures de base, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. C'est ça qui permet d'avoir accès à d'autres activités économiques par la suite, de vraiment impulser un développement localement. Et les activités génératrices de revenus, en région Sousmassa, voilà, on peut compter sur l'agriculture et c'est là que la diaspora peut intervenir directement sur les dimensions de changement climatique. On a également des projets d'assainissement rural et ça c'est une dimension très, très importante. Il n'y a pas uniquement l'agriculture, on peut parler aussi de tout ce qui est gestion des déchets liquides, des eaux usées qui découlent justement de l'arrivée de l'eau potable qui est au départ une opportunité pour les villages et qui se transforme ensuite en un potentiel, en un risque de dégradation au fur et à mesure de l'environnement de ces villages.
Anna Fonseca.
C'est une question très importante, cette question de la contribution de diaspora pour le développement local, notamment dans des projets liés au environnement. Et ça, c'était un axe d'intervention de l'OIM en collaboration avec notre partenaire qui sont ici, tout autour de la table. Et pour vous dire aussi que le Maroc montre qu'il y a déjà une grande expérience concrète sur cette question de la contribution de diaspora vers le développement local.
Mais c'est quoi? C'est une contribution financière essentiellement?
Non, ce n'est pas directement une contribution financière. L'idée, c'est que le territoire au Maroc, les besoins qui sont identifiés au niveau de l'environnement et territoire, qu'il y a une contribution technique, une contribution d'investissement. Bon, peut-être les autres collègues autour de la table sont plus spécialisés pour nous dire en concret. Mais il y a une contribution de différentes façons. Que ce n'est pas nécessairement financière.
Mohamed Charef.
Donc il y a trois axes qu'on peut, l'intervention des immigrants, on peut le résumer comme je l'ai démontré dans le séminaire dont il a parlé Francis.
Que vous avez tenu ici à Climate Chance, oui.
Voilà, donc il y a trois. Il y a les transferts monétaires qui jouent au niveau national. Donc je crois que le Maroc, il a réussi à canaliser, à drainer les transferts monétaires qui représentent quand même plus de 60 milliards de dirhams par an, hein, qui contribuent au niveau de l'équilibre de la balance des paiements, au niveau des devises et ainsi de suite. Mais aussi, il est injecté dans le développement au niveau national. Mais il y a surtout, au niveau des associations, le tissu associatif qui travaille, qui est à cheval, qui est ici et là-bas. hein, et qui travaille, qui joue un rôle pont. C'est le titre d'un livre que j'avais publié il y a quelques années, un rôle pont entre les pays d'installation et les pays de départ. Et là, donc, à la limite, ils agissent avec un savoir-faire, un savoir, un cahier d'adresse, une mobilisation, et ainsi de suite. Et ils injectent beaucoup de moyens techniques dans leur devoir d'origine. Ils ont commencé par un certain nombre d'activités. Premièrement, les infrastructures, les routes, les écoles, et ainsi de suite. Deuxième phase, créer des structures d'accompagnement sanitaire, hammam, et ainsi de suite. Et ils sont arrivés aux troisième phase, créer des revenus. Parce que pour maintenir les gens, partir pour permettre à d'autres de rester, il faut qu'il y ait des revenus. Et c'est là où ils ont mis tout ce qu'il expliquait tout à l'heure Audrey, c'est-à-dire mettre en valeur des produits des terroirs qui n'étaient pas, qui avaient perdu de la valeur. Par exemple, argan, maintenant l'huile d'argan dont on parle au niveau mondial, c'est eux, ils ont contribué. Le safran, par exemple, le safran qui était, bon, d'une manière artisanale, ils ont essayé de le remettre en valeur et ainsi de suite pour permettre de générer des revenus et maintenir la population sur place et faire ce que j'ai dit tout à l'heure, faire venir des gens vers ces villes. C'est-à-dire avec le tourisme solidaire, rural et ainsi de suite. Il y a une multitude d'activités, je crois Audrey est le mieux placé que moi parce qu'il travaille pour l'association pour l'expliquer, qui font un petit peu dans ce sens. Et donc et ça je crois, c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai parlé de Kayes, la région de Kayes au Mali ou la région de certaines communes aussi tout le long du fleuve Sénégal, il y a aussi ce type d'activité. Et ça c'est quelque chose de très important dans la commune. Et le troisième axe que j'ai démontré dans ma communication de deuxième sommet, c'est les compétences, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mobilité des compétences. Ce qu'on
et c'est là pour les changements climatiques notamment, où les compétences sont un peu complexes, peut y avoir des échanges très intéressants.
Parce qu'on a des compétences qui sont originaires marocains ou descendants de marocains et qui vivent, qui travaillent un peu partout dans le monde. La diaspora, entre parenthèses, marocaine est mondialisée. Donc on en trouve aux États-Unis, on en trouve en Australie, on en trouve partout. À Papaïté, on va trouver des Marocains, donc il y a un peu partout. Et il y a des compétences. Et ces compétences apportent un plus pour leur lieu d'origine.
Et puis il y a des initiatives portées par des jeunes comme vous, Charlotte Blondel, qui peuvent sembler un peu anecdotiques, mais qui sont des graines aussi pour faire en sorte que les migrants ne se sentent pas seuls et pour aider les jeunes justement à envisager un avenir positif dans leur pays. Expliquez-nous en quelques mots votre initiative Youth on the Move.
Oui, bien sûr, et je rejoins là le professeur qui vient de nous parler de transfert de compétences, de partage, de collaboration entre les personnes. Au sein de l'association Climates, nous avons créé en janvier 2016 le projet Youth on the Move, qui se centre sur les jeunes migrants climatiques. Pourquoi les jeunes? Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont aux premières loges des effets du changement climatique et aussi aux premières loges des migrations. En général, que ce soit pour n'importe quelle raison, ils sont les premiers à migrer, notamment du fait de leur place particulière dans leur famille ou dans leur communauté. Et ils sont aussi très exposés à un grand nombre d'effets liés aux migrations climatiques en particulier, notamment des effets liés à la question du développement dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons beaucoup de jeunes qui migrent notamment des campagnes vers les villes. Ça pose un grand nombre de questions en termes de formation, d'emploi, etc. Et du coup, dans l'association, nous essayons de montrer l'expérience de ces jeunes et aussi des solutions auxquels ils peuvent penser pour développer eux-mêmes leurs propres solutions.
Par exemple,
nous rentrons en contact avec des associations locales et des jeunes migrants qui se filment, qui nous racontent leurs histoires, leurs témoignages.
Dans différents pays,
des pays aussi variés que la Mongolie, le Tchad, les îles Tuvalu, le Vietnam, le Bangladesh, les États-Unis. Voilà, pour aussi montrer que c'est des problématiques qui touchent des pays développés en développement de nord-sud. C'est vraiment très, très global. Et nous essayons de développer des collaborations, en fait, entre des jeunes qui, même à l'autre bout du monde, peuvent vivre des expériences similaires. Nous faisons ça dans un but d'éducation en premier lieu, mais nous espérons qu'à long terme, ça pourra mener à des partages de connaissances ou des projets communs entre associations de jeunes pour lutter contre l'immigration climatique.
Et vous allez créer bientôt une plateforme collaborative justement ?
C'est ça, une plateforme où des jeunes touchés par cette question pourront envoyer leurs témoignages pour être publiés ensuite sur le site internet et rentrer en contact directement avec d'autres initiatives qui partagent les mêmes problématiques.
Et bien voilà, on va terminer sur cette note d'espoir positive pour échanger. Merci à tous d'avoir participé à cette émission ici au deuxième sommet Climate Chance. Restez avec nous juste après le flash d'info. Nous parlerons des jeunes justement, nous leur donnerons la parole. Plein de jeunes qui étaient présents ici au Climate Chance, qui ont plein de projets, plein d'idées pour envisager un avenir positif malgré les conséquences des changements climatiques dans leurs différents pays. À tout de suite.